Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin à la une de notre émission.
Attente des résultats des élections au Burundi, Pierre Nkurunziza demande à la communauté internationale de respecter l'indépendance de son pays.
Tension à Ouaga entre le régime de la transition et le régiment de sécurité présidentielle après la mise aux arrêts d'une dizaine de soldats.
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles.
Scandale de corruption dans la diplomatie tchadienne, deux diplomates dans le collimateur de la justice américaine.
Les gens qui sont nommés, le plus souvent d'ailleurs, ils ne remplissent pas les critères pour être nommés à telle ou telle autre fonction. Les critères de moralité, d'intégrité, ces critères-là sont bannis. Et quand ils arrivent, ils font souvent n'importe quoi.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports. L'Argentine rejoint le Chili en finale de la Copa América. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Convocation d'un dialogue national à Brazzaville, c'est le président congolais lui-même qui l'a annoncé hier soir. Denis Sassou Nguesso a expliqué à la télévision nationale que ce dialogue aurait lieu du 11 au 15 juillet pour discuter de l'organisation des futures élections et de l'avenir des institutions. On l'écoute.
Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclure, ayant accepté de donner une suite favorable à cet appel de la raison. Comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir dans notre pays? Fait-on, oui ou non, évoluer les institutions de la République? J'ai aussi arrêté que le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet 2015.
Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, qui cumule plus de 30 ans à la tête du pays, l'actuelle constitution congolaise lui interdit de se représenter pour un nouveau mandat.
Au Burundi, c'est toujours l'attente des résultats des élections locales et législatives de lundi, alors que le dépouillement se poursuit. Joint par VOA Afrique, le porte-parole de la commission électorale, Prosper Ntaouamiye, a estimé que le chiffre officiel de la participation devrait être connu ce mercredi, mais les résultats des législatives pas avant demain ou vendredi. À l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du pays, Pierre Nkurunziza s'est adressé hier à la nation. Il a appelé la communauté internationale à respecter l'indépendance du Burundi. Toutes les infos sur la crise burundaise à retrouver sur notre site web voaafrique.com.
Nouvelles accusations d'abus sexuels contre des soldats français. Cette fois, c'est au Burkina Faso que deux militaires français sont soupçonnés d'avoir abusé des enfants. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a immédiatement suspendu les deux hommes et une enquête est ouverte. Des militaires français ont déjà été mis en cause en Centrafrique pour d'autres abus sexuels.
On reste dans la capitale burkinabé où 10 militaires, membres du régiment de sécurité présidentielle, ont été placés aux arrêts après les tirs de lundi soir. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission. Et le Burkina à chapitre politique cette fois, sept partis dont celui du président déchu Blaise Compaoré attaquent devant la justice ouest-africaine le nouveau code électoral du Faso qui leur interdit de concourir aux élections d'octobre. Le point avec Jean-Roger Billon.
13 individus et 7 formations politiques, dont l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de M. Compaoré, ont demandé à la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO basée à Abuja, de dire que ce nouveau code électoral viole leurs droits. Au début du mois d'avril, les députés du Conseil national de transition, le CNT, l'Assemblée intérimaire au Burkina Faso, ont voté une révision du code électoral rendant inéligibles les personnes ayant soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance politique. Cette loi faisait référence à la tentative de révision de la Constitution d'octobre 2014 destinée à permettre à M. Compaoré de se maintenir au pouvoir et qui avait finalement provoqué un soulèvement ayant causé sa chute après 27 années de pouvoir.
En Côte d'Ivoire, prorogation de 12 jours de la révision de la liste électorale. C'est le décret pris mardi soir par le président Alassane Ouattara. À partir du 1er juillet, les électeurs ivoiriens qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale auront donc encore 12 jours pour le faire. Sans surprise, le président de la Côte d'Ivoire a donc prolongé une opération qui peine à susciter l'engouement.
Et par ailleurs, les djihadistes au Mali menacent de frapper la Mauritanie et la Côte d'Ivoire après avoir étendu ces derniers jours leurs attaques près des frontières de ces deux pays, accusés de coopérer avec les ennemis de l'islam. Idrissa Seydoudia.
Ismaël Khalil, membre d'Ansar Dine, a dit à l'AFP « Nous revendiquons l'attaque de Nara et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam ». Le prédicateur radical malien a ajouté « Nous allons multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam ». L'attaque de samedi contre un camp militaire à Nara, dans le centre du Mali, près de la frontière mauritanienne, a fait 3 tués parmi les militaires maliens et 9 chez les assaillants, selon le gouvernement. Dimanche, à Fakola, dans le sud, à 20 km du territoire ivoirien, des bâtiments administratifs et de sécurité ont été saccagés. Pour rappel, Ansar Dine fait partie des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali de mars à avril 2012 jusqu'au lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale à l'initiative de la France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le chiffre du jour, 137 000, c'est le nombre record de migrants qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions périlleuses au cours du premier semestre 2015. Cela représente une hausse de 83 % par rapport au premier semestre 2014, selon le Haut Commissariat aux réfugiés.
Et la Grèce qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Le pays a été contraint hier de faire défaut sur sa dette vis-à-vis du Fonds monétaire international, après avoir demandé pour l'heure sans succès une extension de l'aide financière européenne. L'Eurogroupe doit reprendre ce matin pour examiner les propositions d'Athènes qui a demandé un nouveau plan d'assistance financière.
Le bilan de l'accident d'avion militaire qui s'est écrasé mardi en Indonésie dans une zone habitée de la ville de Medan est monté à 141 morts selon un nouveau bilan mercredi, tandis que les recherches d'autres victimes se poursuivaient.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a promis d'exécuter les condamnés à mort après l'assassinat du procureur général du pays, évoquant même une loi plus dure pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, hier encore, Jacques Aristide, 3 hommes soupçonnés d'être des djihadistes ont été tués dans une banlieue du Caire.
Les forces de l'ordre croient que les explosifs que les 3 hommes transportaient dans la voiture se sont déclenchés accidentellement, un incident qui s'est déjà produit. Depuis la destitution en juillet 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité mènent une répression contre ses partisans, rapporte l'AFP. En représailles, des centaines de policiers et de soldats ont été tués dans des attaques djihadistes, essentiellement dans le nord Sinaï, mais aussi au Caire et dans le delta du Nil. La police est en état d'alerte à 2 jours du 2e anniversaire, vendredi, de cette destitution.
Et puis c'est évidemment...
À 5 mois de la conférence du climat à Paris, la Chine, premier pollueur mondial, a promis hier de plafonner ses émissions de CO2 à l'horizon 2030. L'annonce faite à Paris par le premier ministre chinois Li Keqiang n'a pas été une surprise puisqu'elle reprend les termes de l'accord USA-Chine dans lequel Pékin s'engage à atteindre un pic de ses émissions autour de 2030 et à œuvrer à y parvenir plus tôt. Ce pas en avant est salué par l'ONG et experts et pourtant jugé insuffisant pour limiter le réchauffement global à 2 degrés.
C'est ce mercredi que les États-Unis et Cuba vont officiellement annoncer la réouverture de leurs ambassades respectives à La Havane et à Washington. Une déclaration officielle de Barack Obama est attendue depuis la Maison-Blanche tout à l'heure. Une annonce qui marquera un peu plus le rapprochement des deux pays après 54 ans de rupture diplomatique.
Et on reparle de l'Amérique latine puisque le président américain a reçu hier son homologue brésilienne. Barack Obama et Dilma Rousseff ont affiché à cette occasion leur entente retrouvée, Lionel Gaïma.
Saluant son ami Dilma, le président américain a mis en exergue le lien étroit entre les États-Unis et le Brésil, les 2 plus grandes démocraties et économies des Amériques, mais aussi entre 2 sociétés multiethniques et multiraciales. La présidente brésilienne a de son côté salué lors de cette conférence de presse commune une rencontre riche et productive et a invité son homologue à qui elle a offert le célébrissime maillot jaune et vert brésilien à assister aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Pour rappel, Mme Rousseff avait fin 2013 annulé une visite d'État prévue à Washington à la suite de révélations par la presse d'une surveillance de ses communications personnelles par la NSA américaine. Les choses ont changé, a insisté la présidente brésilienne, soulignant que le gouvernement américain avait assuré qu'il n'engagerait plus d'opérations d'espionnage intrusives envers des pays amis.
Voilà pour ce journal en ce mercredi matin sur VOA Afrique. Tout de suite, place à la Minute Éco, présentée ce matin
par Nathalie Barr.
Le Forum international sur l'externalisation des services se poursuit à Brazzaville ce mercredi afin de permettre des échanges entre les opérateurs économiques nationaux et internationaux pour développer le secteur des services, rapporte l'Agence d'information d'Afrique centrale. Ce forum vise notamment la mise en place d'une stratégie panafricaine de dynamisation des métiers de la sous-traitance. Il est aussi question de promouvoir la formation dans les technologies de l'information et de la communication. Africa Finance Corporation va investir plus de 33 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures de transport de la Guinée, rapporte Info Plus Gabon. AFC annonce l'octroi du prêt au groupe Ebomaf pour la réfection de la route nationale reliant Kissidougou et Kankan. AFC a été convié à participer à ce projet par la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, qui apporte de son côté une contribution de 39 millions de dollars. La RN6 constitue la jonction entre l'autoroute qui relie Conakry à Ouagadougou et Dakar. La filiale burkinabé d'Ecobank vient d'officialiser l'augmentation de son capital qui est passé de 7,4 milliards à 11,8 milliards de francs CFA, rapporte l'agence de presse africaine. L'exercice 2014 d'Ecobank Burkina a dégagé un bénéfice net de 11,3 milliards de francs CFA et une progression de 15%. Avec plus de 250 000 clients et 77 unités de guichet, c'est la plus étendue du pays depuis son installation en 1980.
Merci Nathalie. On accueille à présent pour parler des sports Timothée Donogmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nico.
On commence par du football. L'information de la nuit, la qualification de l'Argentine pour la finale de la Copa América après une véritable démonstration face au Paraguay. Victoire 6 buts à 1 en demi-finale. Lionel Messi n'a marqué aucun des 6 buts de son équipe, mais le capitaine et joueur vedette de l'Albicéleste a réussi de loin son meilleur match du tournoi en distillant 4 passes décisives. L'Argentine qui affrontera samedi en finale le Chili, le pays organisateur. Autre tournoi, la Coupe du Monde féminine au Canada. Les Américaines sont en finale ce matin après avoir battu la nuit dernière les Allemandes 2-0. En finale, les États-Unis rencontreront le vainqueur du match Japon-Angleterre qui se joue la nuit prochaine, Timothée.
Eh oui, avantage psychologique aux Japonaises qui défendent leur titre après l'avoir arraché de haute lutte en 2011 au tir au but face aux Américaines à Francfort en Allemagne. Invitées surprise à cette étape du mondial féminin, les solides anglaises entendent capitaliser sur leur bonne fortune pour rêver d'un sacre au Canada ou tout au moins d'une place en finale.
Et cette finale se jouera en l'absence du président de la FIFA.
Sepp Blatter, qui est empêtré dans une crise sans précédent du fait du scandale de corruption au sein de la FIFA, ne remettra donc pas le trophée à l'équipe victorieuse de la finale, prévue dimanche au BC Place Stadium de Vancouver. Démissionnaire le 2 juin, après avoir décroché un 5e mandat, Blatter invoque des raisons personnelles pour expliquer son absence au Canada.
Et toujours en rapport avec ce scandale de la FIFA, la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui demande un audit interne.
Il faut dire que certains des dirigeants actuels et anciens de cette confédération, dont le siège est à Miami, sont impliqués dans le scandale de corruption de la FIFA. La CONCACAF a désigné le cabinet d'avocats Alvarez et Marsal pour un audit pendant 4 à 5 semaines sur ses finances et son fonctionnement.
On parle tennis à Londres, le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon.
Chez les messieurs, Roger Federer a défait hier Damir Dzumhur en 3-7. Victoire de Rafael Nadal en 3-7 également face à Thomas Bellucci. Et Sam Querrey s'est imposé en 3-7 lui aussi face à Igor Seedling. Chez les dames, Petra Kvitova a défait 1-2-7 Kiki Bertens. Sortie dès le premier tour de Simona Halep, numéro 3 mondial et demi-finaliste l'an dernier, qui a été éliminée dès le premier tour par la Slovaque Jana Cepelova, 106e mondiale, en 3-7, 5-7, 6-4 et 6-3.
Un mot d'athlétisme avec le forfait d'Usain Bolt pour le meeting de Paris, ce sera samedi, ainsi que pour celui de Lausanne le 9 juillet.
Le sprinter jamaïcain souffre d'un problème à la jambe gauche, selon les organisateurs parisiens. « Je suis déçu de ne pas pouvoir concourir à Paris et Lausanne. J'adore courir dans ces deux meetings. » Mais je ne suis pas à 100% de mes capacités, a expliqué Bolt, que cite un communiqué des organisateurs.
Merci pour cette page des sports, c'était Timothée Donogmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Nous l'évoquions dans le journal, la dizaine de mises aux arrêts des membres du régime de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Faut-il s'inquiéter de ces sautes d'humeur du service d'élite de protection de la présidence, auquel a notamment appartenu le Premier ministre Yacouba Isaac Zida? Claire Morin-Gibourg a joint le rédacteur en chef du quotidien L'Événement, Newton Ahmed Barry.
Actuellement, il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo, en accord avec le chef d'État de la transition Michel Kafando, autour évidemment du différend qui oppose le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, et le Premier ministre Zida. Aujourd'hui, le RSP met sérieusement en balance évidemment le poste de Premier ministre de Zida. Il revendique deux choses importantes en disant d'abord qu'il ne veut plus des militaires au niveau de la gouvernance de la transition et donc Zida devrait démissionner et avec lui tous les militaires qui sont au niveau du gouvernement. Il semble que pour eux, c'est la solution à la crise actuelle.
Et le retour sur le devant de la scène de l'ancien président Ouédraogo, qu'en pensez-vous?
Évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup sollicité en situation de crise. En février, c'était lui également qui avait été sollicité pour essayer d'arbitrer le différend entre le RSP et Zida. Cette fois encore, c'est lui qui est là. Évidemment, je pense que comme c'est un ancien militaire, donc un officier supérieur à la retraite, probablement que les éléments l'écoutent.
Selon votre analyse, est-ce que la situation pourrait dégénérer?
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles. D'ailleurs, ce matin, ils ont fait la ronde d'un certain nombre de médias en disant très clairement qu'ils allaient procéder à l'arrestation du Premier ministre parce qu'il s'était illicitement enrichi. Lui est le ministre de l'administration territoriale qui se trouve aussi être un militaire, un colonel en l'occurrence.
Newton Ahmed Barry, il était joint hier soir par Claire Morin-Gibourg à Ouagadougou.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le Burundi, après les législatives et communales, la prochaine étape, la présidentielle prévue le 15 juillet, où le président Nkurunziza briguera un troisième mandat, une candidature contestée. À quoi faut-il s'attendre de l'actuel processus électoral? Le pays va-t-il s'enfoncer davantage dans la crise? Que faut-il faire maintenant pour sauver le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a donc accepté de proroger pour 12 jours la révision de la liste électorale. L'opération de révision du fichier électoral débutée le 1er juin et donc étendue jusqu'au 13 juillet. Moins de 500 000 personnes ont été enrôlées sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. Pour en savoir davantage sur cette désaffection, Jean-Roger Billon a joint le docteur Christophe Kwame. Il est le coordonnateur national de la Convention de la société civile.
Il y a une fracture suite à la crise post-électorale. Et cette fracture qui a mis deux camps en face n'a pas, à la date d'aujourd'hui, pu être fermée. Constatez vous-même que le président de la CDVR, aujourd'hui candidat, je dirais, joue contre les citoyens ivoiriens qu'il était censé interroger pour arriver à la réconciliation. Donc, le petit peuple s'y perd entre l'ancien président de la CDVR qui attaque le pouvoir en place qui attaque les partis d'opposition, les partis d'opposition qui sont divisés. Donc, dans une atmosphère comme ça, le citoyen lambda ne se retrouve plus. Nous pensons que le public, déjà, sa peur qui est née suite à la crise post-électorale n'est pas partie. Et nous n'avons pas vu la société civile elle-même être mobilisée pour sensibiliser les citoyens comme par le passé, ça s'était fait en 2010.
Est-ce que la solution serait dans cette extension?
Aujourd'hui, nous allons étendre de 12 jours, c'est-à-dire, je dirais, 7 jours ouvrables. Mais sur ces 12 jours, est-ce que la sensibilisation, l'information, je dirais, l'approche citoyenne va changer dans ces 12 jours? Je n'ai rien vu de publié sur cela. Si c'est pour employer les mêmes techniques pour dire aux gens avec des grosses pancartes « allez vous enrôler », je pense qu'on ne va pas atteindre les objectifs qui sont à peu près respectés de 70%.
Qui doit avoir le devoir d'initiative pour remettre sur les rails le processus électoral?
Il y a deux initiatives possibles. Il y a la société civile elle-même qui aujourd'hui, tous ceux qui sont leaders, doivent au même s'auto-saisir parce qu'ils ont une légitimité sociale qu'ils doivent employer dès maintenant à écrire à la CEI, taper à la porte de la CEI pour dire « nous sommes citoyens, pour nous, nous n'allons pas jouer aux pompiers cette année, donc donnez-nous les moyens, donnez-nous l'accréditation pour que nous fassions un minimum de 2 ou 3 jours de sensibilisation ». Mais la plus grande partie de cette sensibilisation et de cette information doit venir de l'exécutif. L'État de Côte d'Ivoire doit appuyer la CEI pour que, de l'autre côté aussi, la sensibilisation institutionnelle se fasse. Donc pour nous, la troisième partie, ce serait les partis politiques. Il faut absolument que le cadre de concertation gouvernement-partis politiques soit un cadre aussi dans lequel le gouvernement qui reçoit les partis politiques de l'opposition puisse sensibiliser les partis politiques pour qu'ils adhèrent à cette sensibilisation commune-là pour que les populations puissent aller s'enrôler sur les 12 jours qu'on va nous donner.
Christophe Kouamé, coordonnateur national de la Convention de la société civile.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Parlons à présent de ce scandale dans la diplomatie tchadienne. Mahmoud Adam Béchir, ancien ambassadeur du Tchad aux États-Unis et au Canada, et son adjoint, au moment des faits, Youssouf Hamid Takane, sont accusés par la justice américaine d'avoir usé de leur position officielle pour aider la compagnie canadienne Griffith Energy International à l'aider à obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Tchad. Ils auraient reçu en échange 4 millions d'actions valant aujourd'hui 34 millions de dollars. Des actions que la justice américaine entend saisir. Pour une réaction, Timothée de Langmaille a joint Anjamena Daniel de Zumbé Passalé, président de Droits de l'Homme sans frontières.
Les gens qui sont nommés, le plus souvent d'ailleurs, ils ne remplissent pas les critères pour être nommés à de telle ou telle autre fonction. Les critères de moralité, d'intégrité, ces critères-là sont bannis. Et quand ils arrivent, ils font souvent n'importe quoi.
Selon l'administration américaine, les deux hommes ont reçu 4 millions d'actions du groupe pétrolier canadien Griffith Energy International. Des actions qui ont atteint aujourd'hui une valeur de 34 millions de dollars. Comment cela est-ce possible?
Ces compagnies, quand elles quittent là-bas, elles ont peur de la loi de chez elles et arrivées ici, elles trouvent toujours des gens pour corrompre parce qu'elles savent que, par exemple, dans des pays comme le Tchad où la corruption bat son plein, elles ont toujours des gens pour leur donner de l'argent, pour les surveiller, pour leur faire ceci, cela. C'est ce créneau-là que cette société a utilisé pour corrompre ces diplomates qu'on a envoyés pour représenter le Tchad. Là, vraiment, ça pose un problème de moralité, ça pose un problème d'intégrité. Quand vous voyez, par exemple, dans les ambassades à l'extérieur, ces nominations sont faites purement sur base de favoritisme, sur de base de clientélisme, sur de base de tribalisme, de régionalisme. Vous ne voyez pas les Tchadiens d'autre bord. Vous voyez les Tchadiens qui sont de la région du président de la République. Et puis, ils pensent que rien ne peut leur arriver du fait qu'ils appartiennent à telle ou telle autre origine. Rien ne peut leur arriver.
Cette affaire pose le problème du conflit d'intérêts chez les agents publics. Comment les autorités sur place luttent-elles contre le conflit d'intérêts?
D'intérêt, est-ce que ça représente une infraction au Tchad? Je n'en sais vraiment pas. Plutôt, les gens pensent que quand vous occupez une fonction, vous devez l'occuper de façon à vous enrichir de n'importe quelle façon. Vous ne tenez même pas compte du conflit d'intérêt. Ça, on n'en parle pas. Quand bien même qu'on sait que le conflit d'intérêt, ça cause un problème. Ça, vraiment, ça ne représente rien aux yeux des autorités tchadiennes. Mais pour peut-être satisfaire les Américains, voilà pourquoi on a pris une sanction, on a relevé celui-là qui était ici, qui occupait autre fonction, mais en réalité, ça ne leur dit rien. Elles sont prêtes à reprendre.
Daniel de Zumbé Passalé, président de Droits de l'Homme sans frontières, il était joint à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Corruption toujours au Nigeria, cette fois, le nouveau président Muhammadu Buhari a affirmé qu'il donnait son soutien aux gouverneurs des États nigérians qui vont enquêter sur des milliards de dollars issus du pétrole et qui n'ont pas été reversés par la compagnie publique pétrolière au gouvernement fédéral. Nathalie Barge a joint à Lagos pour une analyse, le professeur Tundonu Amosu.
Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à ces gens-là. Donc, il les connaît et c'est justement la raison pour laquelle il a commencé par limoger le conseil d'administration. Et je crois qu'il y a d'autres mesures qui vont suivre. Bien évidemment, il y aura une résistance assez forte de la part de ceux qui ont beaucoup bénéficié de l'ancien régime. Mais je crois que quand même, le président Buhari, il est bien décidé à gagner cette bataille.
Est-ce qu'il a le soutien de beaucoup de gouverneurs?
Franchement, je ne sais pas. Parce que vous savez que les gouverneurs, ce sont pour la plupart ceux qui ont pleinement bénéficié de la donne politique. Les gouverneurs, en principe, ce sont des gens pratiquement intouchables tant qu'ils restent au pouvoir. Mais je crois que déjà, l'idée même de pouvoir leur couper quand même les fonds dont ils ont toujours disposé, c'est déjà au début. Et par la suite, on verra que de toute façon, les gouverneurs n'auront pas la possibilité de puiser à pleine main dans les caisses de l'État comme ils l'ont fait par le passé.
Que pensez-vous du propos de l'ancien ministre des Finances qui a dit que cette lutte contre la corruption dans le domaine du pétrole était une sorte de chasse aux sorcières?
C'est facile à dire, vous savez, mais c'est un secret de polichinelle que dans le secteur pétrolier, il y a beaucoup d'argent qui circule et qu'il y a des gens qui se sont vraiment remplis les poches. Tout dernièrement, on parlait encore les importateurs de pétrole. Ils disaient que le gouvernement leur devait l'équivalent d'un milliard de dollars, ce qui quand même est incroyable. Et au moment où il arrive, Buhari a crié haut et fort qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État.
Selon vous, qu'en est-il de la responsabilité des géants pétroliers étrangers qui exploitent le pétrole au Nigeria?
Pour qu'il y ait corruption, il faut des complicités de part et d'autre. Et je crois que les géants pétroliers, les sociétés, ont vraiment exploité la situation nigériane où, comme on dit, chacun a pratiquement son prix. Donc, s'il y a des gens qui acceptent, moyennant paiement, de ne pas faire le nécessaire, évidemment, par le passé, le gouvernement a toujours accepté de payer, même quand il n'y avait aucune livraison.
L'analyse du professeur Tundonou Amoussou. Retour aux États-Unis, où faute d'un compromis au Congrès, la loi autorisant la banque export-import des États-Unis a expiré à minuit. C'est la première fois depuis le lancement de cette institution en pleine dépression des années 30 pour favoriser les exportations américaines. Cette fermeture pourrait être temporaire si les législateurs s'entendent à nouveau pour relancer cette banque. Pour en savoir plus sur l'Export-Import Bank, Timothée Donogmaï a joint le professeur Michael Kevan de l'Université de Santa Clara en Californie.
Dans le mandat de la banque Export-Import, ils doivent seulement financer les projets ou la production que le secteur privé ne veut pas financer, c'est-à-dire seulement les projets qui sont destinés, par exemple, à des pays où il y a une instabilité politique ou bien une soupçon que peut-être on ne pourra pas rembourser le crédit. Et donc, les banques privées ne veulent pas financer cette activité. Donc, en principe, c'est seulement un petit pourcentage de la valeur des exports américains qui est financée par la banque. Maintenant, une partie des sénateurs et représentants, surtout du côté droite aux États-Unis, du Parti républicain, ils pensent que cette banque représente une intrusion gouvernementale qui n'est pas nécessaire. Ils disent que le marché privé fonctionne parfaitement. Il n'y a pas besoin de cette banque qui va bénéficier seulement quelques dizaines de compagnies, surtout des grandes compagnies comme Boeing et General Electric, qui vont vendre leurs produits à des pays comme Nigeria ou l'Afrique du Sud ou la Chine. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette banque.
Quelle sera l'incidence de l'arrêt de l'Exim Bank sur les exportations américaines en direction de l'Afrique?
Je pense que pour certains pays, comme des pays en Afrique, par exemple, il y a l'exemple du Ghana qui, depuis quelques années, paye des voitures pour les sapeurs-pompiers. Ils ont payé des centaines de voitures. Il y avait un grand problème au Ghana, surtout en Accra, des problèmes des feux, des incendies très sérieux. Donc, le gouvernement au Ghana a commencé à acheter plusieurs véhicules pour les sapeurs-pompiers. Mais bien sûr, beaucoup de banques internationales pensent que, bon, le gouvernement de Ghana, c'est pas sûr qu'ils vont rembourser ces crédits. Et donc, le gouvernement a dû demander, et les producteurs américains ont dû demander à la banque Export-Import des crédits qui sont, bon, disons, peut-être 100 millions de dollars. Maintenant, ça sera beaucoup plus difficile pour le gouvernement de Ghana ou le gouvernement de Nigeria d'avoir cet accès pour payer des véhicules comme ceci. Mais je pense que dans cette économie globale que nous avant, c'est les producteurs en Chine et les producteurs en Inde qui vont bénéficier.
Le professeur Michael Kevin du département d'économie de l'université de Santa Clara en Californie. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Eugène Poda à Ouagadougou, au Burkina, et Jimmy Rouberine-Touari, c'est à Bujumbura, la capitale burundaise. Et on va souhaiter une excellente fête de l'indépendance à tous les Burundais qui nous écoutent. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.